Voltaire, traité de métaphysique, chapitre 5, si l'homme a une âme et ce que ce peut être. Nous sommes certains que nous sommes matière, que nous sentons et que nous pensons. Nous sommes persuadés de l'existence d'un Dieu duquel nous sommes l'ouvrage, par des raisons contre lesquelles notre esprit ne peut se révolter. Nous nous sommes prouvés à nous-mêmes que ce Dieu a créé ce qui existe. Nous nous sommes convaincus, et qu'il nous est impossible, et qu'il doit nous être possible, de savoir comment il nous a donné l'être. Mais pouvons-nous savoir ce qu'il pense en nous? Quelle est cette faculté que Dieu nous a donnée? Est-ce la matière qui sent ou qui pense? Est-ce une substance immatérielle? En un mot, qu'est-ce qu'une âme? C'est ici où il est nécessaire plus que jamais de me remettre dans l'état d'un être pensant descendu d'un autre globe, n'ayant aucun des préjugés de celui-ci et possédant la même capacité que moi, n'étant point ce qu'on appelle homme et jugeant de l'homme d'une manière désintéressée. Si j'étais un être supérieur à qui le Créateur eût révélé ses secrets, je dirais bientôt, en voyant l'homme, ce que c'est que cet animal, et je définirai son âme et toutes ses facultés en connaissance de cause, avec autant de hardiesse que l'on définit tant de philosophes qui n'en savaient rien. Mais, avouant mon ignorance et essayant ma faible raison, je ne puis faire autre chose que de me servir de la voie de l'analyse, qui est le bâton que la nature a donné aux aveugles. J'examine tout partie à partie, et je vois ensuite si je puis juger du total. Je me suppose donc arrivé en Afrique et entouré de nègres de Hottentot et d'autres animaux. Je remarque d'abord que les organes de la vie sont les mêmes chez eux tous. Les opérations de leur corps partent toutes des mêmes principes de vie. Ils ont tous, à mes yeux, même désir, même passion, même besoin. Ils les expriment tous, chacun dans leur langue. La langue que j'entends la première est celle des animaux. Cela ne peut être autrement. Les sons par lesquels ils s'expriment ne semblent point arbitraires. Ce sont des caractères vivants de leur passion. Ces signes portent l'empreinte de ce qu'ils expriment. Le cri d'un chien qui demande à manger joint à toutes ses attitudes à une relation sensible à son objet. Je distingue incontinent des cris et des mouvements par lesquels il flatte un autre animal, de ceux avec lesquels il chasse et de ceux par lesquels il se plaint. Je discerne encore si sa plainte exprime l'anxiété de la solitude ou de la douleur d'une blessure ou les impatiences de l'amour. Ainsi, avec un peu d'attention, j'entends le langage de tous les animaux. Ils n'ont aucun sentiment qu'ils n'expriment. Peut-être n'en est-il pas de même de leurs idées. Mais comme il paraît que la nature ne leur a donné que peu d'idées, il me semble aussi qu'il était naturel qu'ils eussent un langage borné, proportionné à leur perception. Et que rencontrais-je de différent dans les animaux nègres? Que puis-je y voir, sinon quelques idées, quelques combinaisons de plus dans leur tête, exprimées par un langage différemment articulé? Plus j'examine tous ces êtres, plus je dois soupçonner que ce sont des espèces différentes d'un même genre. Cette admirable faculté de retenir des idées leur est commune à tous. Ils ont tous des songes et des images faibles pendant le sommeil, des idées qu'ils ont reçues en veillant. Leur faculté sentante et pensante croît avec leurs organes et s'affaiblit avec eux, périt avec eux. Que l'on verse le sang d'un singe et d'un nègre, il y aura bientôt dans l'un et l'autre un degré d'épuisement qui les mettra hors d'état de me reconnaître. Et bientôt après, leurs sens extérieurs n'agissent plus et enfin, ils meurent. Je demande alors ce qui leur donnait la vie, la sensation, la pensée. Ce n'était pas leur propre ouvrage, ce n'était pas celui de la matière, comme je me le suis déjà prouvé. C'est donc Dieu qui avait donné à tous ces corps la puissance de sentir et d'avoir des idées dans des degrés différents, proportionnés à leurs organes. Eh bien voilà assurément ce que je soupçonnerais d'abord. Enfin, je vois des hommes qui me paraissent supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres et aux autres animaux de cette espèce. Des philosophes me disent: Ne vous y trompez pas, l'homme entièrement diffère des animaux. Il a une âme spirituelle et immortelle, car, remarquez bien ceci, si la pensée est un composé de la matière, elle doit être nécessairement cela même dont elle est composée. Elle doit être divisible, capable de mouvement, etc. Or, la pensée ne peut point se diviser, donc elle n'est point un composé de la matière. Elle n'a point de parti, elle est simple, elle est immortelle, elle est l'ouvrage de l'image d'un Dieu. J'écoute ces maîtres et je leur réponds, toujours avec défiance de moi-même, mais non avec confiance en eux. Si l'homme a une âme telle que vous l'assurez, je dois croire que ce chien et cette taupe en ont une toute pareille. Alors ils me jurent tous que non. Je leur demande quelle différence il y a donc entre ce chien et eux. Les âmes répondent: Ce chien est une forme substantielle. Les autres me disent: Oh, n'en croyez rien, les formes substantielles sont des chimères. Mais ce chien est une machine comme un tourne-broche, et rien de plus. Je demande encore aux inventeurs des formes substantielles ce qu'ils entendent par ce mot. Et comme ils ne me répondent que du galimatias, je me retourne vers les inventeurs des tourne-broches, et je leur dis: Si ces bêtes sont de pures machines, vous n'êtes certainement auprès d'elles que ce qu'une montre à répétition est en comparaison du tourne-broche dont vous parlez. Ou si vous avez l'honneur de posséder une âme spirituelle, les animaux en ont une aussi, car ils sont tout ce que vous êtes. Ils ont les mêmes organes avec lesquels vous avez des sensations, et si ces organes ne leur servent pas pour la même fin, Dieu, en leur donnant ces organes, aura fait un ouvrage inutile. Et Dieu, selon vous, ne fait rien en vain. Choisissez donc ou d'attribuer une âme spirituelle à une puce, à un ver, à un ciron, ou d'être automate comme eux. Tout ce que ces messieurs peuvent me répondre, c'est qu'ils conjecturent que les ressorts des animaux qui paraissent les organes de leurs sentiments sont nécessaires à leur vie et ne sont chez eux que les ressorts de la vie. Mais cette réponse n'est qu'une supposition déraisonnable. Il est certain que pour vivre, on n'a besoin ni de nez, ni d'oreilles, ni d'yeux. Il y a des animaux qui n'ont point de ces sens et qui vivent donc, ces organes de sentiment ne sont donnés que pour le sentiment. Donc les animaux sentent comme nous. Donc ce ne peut être que par un excès de vanité ridicule que les hommes s'attribuent une âme d'une espèce différente de celle qui anime les brutes. Il est donc clair, jusqu'à présent, que ni le philosophe ni moi ne savons ce que c'est que cette âme. Il m'est seulement prouvé que c'est quelque chose de commun entre l'animal appelé homme et celui qu'on nomme bête. Voyons si cette faculté commune à tous ces animaux est matière ou non. Il est impossible, me dit-on, que la matière pense. Je ne vois pas cette impossibilité. Si la pensée était un composé de la matière, comme ils me le disent, j'avouerais que la pensée devrait être étendue et divisible. Mais si la pensée est un attribut de Dieu donné à la matière, je ne vois pas qu'il soit nécessaire que cet attribut soit étendu et divisible. Car je vois que Dieu a communiqué d'autres propriétés à la matière, lesquelles n'ont ni étendue ni divisibilité. Le mouvement, la gravitation par exemple, qui agit sans corps intermédiaire et qui agit en raison directe de la masse et non des surfaces et en raison double et inverse des distances, est une qualité réelle, démontrée et dont la cause est aussi cachée que celle de la pensée. En un mot, je ne puis juger que d'après ce que je vois et selon ce qui me paraît le plus probable. Je vois que dans toute la nature, les mêmes effets supposent une même cause. Ainsi, je juge que la même cause agit dans les bêtes et dans les hommes, à proportion de leurs organes. Et je crois que ce principe commun aux hommes et aux bêtes est un attribut donné par Dieu à la matière. Car si ce qu'on appelle âme était un être à part, de quelque nature que fût cet être, Je devrais croire que la pensée est son essence, ou bien je n'aurais aucune idée de cette substance. Aussi tous ceux qui ont admis une âme immatérielle ont été obligés de dire que cette âme pense toujours. Mais j'en appelle à la conscience de tous les hommes. Pense-t-il sans cesse? Pense-t-il quand il dort d'un sommeil plein et profond? Et les bêtes ont-elles à tout moment des idées? Quelqu'un qui est évanoui a-t-il beaucoup d'idées dans cet état qui est réellement une mort passagère? Si l'âme ne pense pas toujours, il est donc absurde de reconnaître en l'homme une substance dont l'essence est de penser. Que pourrions-nous en conclure, sinon que Dieu a organisé les corps pour penser comme pour manger, pour digérer? En m'informant de l'histoire du genre humain, j'apprends que les hommes ont eu longtemps la même opinion que moi sur cet article. Je lis un des plus anciens livres qui soient au monde, conservé par un peuple qui se prétend le plus ancien peuple. Bien, ce livre me dit que Dieu même semble penser comme moi. Il m'apprend que Dieu a autrefois donné aux Juifs les lois les plus détaillées que jamais nation ait reçues. Il daigne leur prescrire jusqu'à la manière dont ils doivent aller à la garde-robe. Il ne leur dit pas un mot de leur âme. Il ne leur parle que des peines et des récompenses temporelles. Cela prouve au moins que l'auteur de ce livre ne vivait pas dans une nation qui crut la spiritualité et l'immortalité de l'âme. On me dit bien que 2000 ans après, Dieu est venu apprendre aux hommes que leur âme est immortelle. Mais moi, qui suis d'une autre sphère, je ne puis m'empêcher d'être étonné de cette disparate que l'on met sur le compte de Dieu. Il semble étrange à ma raison que Dieu ait fait croire aux hommes le pour et le contre. Mais si c'est un point de révélation, ma raison le voit goutte, je me tais et j'adore en silence. Ce n'est pas à moi d'examiner ce qui a été révélé. Je remarque seulement que ces livres révélés ne disent point que l'âme soit spirituelle. Ils nous disent seulement qu'elle est immortelle. Oh, je n'ai aucune peine à le croire, car il paraît aussi possible à Dieu de l'avoir formée, de quelque nature qu'elle soit, pour la conserver que pour la détruire. Ce Dieu qui peut, comme il lui plaît, conserver ou anéantir le mouvement d'un corps, peut assurément faire durer à jamais la faculté de penser dans une partie de ce corps. Et s'il nous a dit en effet que cette partie est immortelle, il faut en être persuadé. Mais de quoi cette âme est-elle faite? C'est ce que l'être suprême n'a pas jugé à propos d'apprendre aux hommes. N'ayant donc pour me conduire dans ces recherches que mes propres lumières, l'envie de connaître quelque chose et la sincérité de mon cœur, je cherche avec sincérité ce que ma raison me peut découvrir par elle-même. J'essaye ses forces, non pas pour la croire capable de porter tous ses poids immenses, mais pour la fortifier par cet exercice et pour m'apprendre jusqu'où va son pouvoir. Ainsi, toujours prêt à céder dès que la révélation me présentera ses barrières, je continue mes réflexions et mes conjectures uniquement comme philosophe, jusqu'à ce que ma raison ne puisse plus avancer. Chapitre 6. Si ce qu'on appelle âme est immortel. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si en effet Dieu a révélé l'immortalité de l'âme. Je me suppose toujours un philosophe d'un autre monde que celui-ci et qui ne juge que par ma raison. Cette raison m'a appris que toutes les idées des hommes et des animaux leur viennent par les sens. Et j'avoue que je ne peux m'empêcher de rire lorsque l'on me dit que les hommes auront encore des idées quand ils n'auront plus de sens. Lorsqu'un homme a perdu son nez, ce nez perdu n'est non plus une partie de lui-même que l'étoile polaire. Mais qu'il perde toutes ses parties et qu'il ne soit plus un homme, n'est-il pas un peu étrange alors de dire qu'il lui reste le résultat de tout ce qui a péri? J'aimerais autant dire qu'il boit et mange après sa mort que de dire qu'il lui en reste des idées après sa mort. L'un n'est pas plus inconséquent que l'autre, et certainement il a fallu bien des siècles avant qu'on ait osé faire une si étonnante supposition. Je sais bien, encore une fois, que Dieu, ayant attaché à une partie du cerveau la faculté d'avoir des idées, il peut conserver cette petite partie du cerveau avec sa faculté. Car de conserver cette faculté sans la partie, cela est aussi impossible que de conserver le rire d'un homme ou le chant d'un oiseau après la mort de l'oiseau et de l'homme. Dieu peut aussi avoir donné aux hommes et aux animaux une âme simple, immatérielle, et la conserver indépendamment de leur corps. Cela lui est aussi possible que de créer 1 million de mondes de plus qu'il n'en a créé, et de donner aux hommes 2 nez, 4 mains, des ailes et des griffes. Mais pour croire qu'il a fait en effet toutes ces choses possibles, il me semble qu'il faut les voir. Ne voyant donc point que l'entendement, la sensation de l'homme soit une chose immortelle, qui me prouvera qu'elle l'est? Quoi, moi qui ne sais pourtant quelle est la nature de cette chose, j'affirmerai qu'elle est éternelle. Moi, qui sais que l'homme n'était pas hier, j'affirmerai qu'il y a dans cet homme une partie éternelle par sa nature. Et tandis que je refuserai l'immortalité à ce qui anime ce chien, ce perroquet, cette grive, je l'accorderai à l'homme par la raison que l'homme le désire. Il serait bien doux, en effet, de survivre à soi-même, de conserver éternellement la plus excellente partie de son être dans la destruction de l'autre, de vivre à jamais avec ses amis, etc., etc. Mais cette chimère, allant viser Roger en ce seul sens, serait consolante dans des misères réelles. Voilà peut-être pourquoi on inventa autrefois le système de la métempsychose. Mais ce système a-t-il plus de vraisemblance que les 1001 nuits? Et n'est-il pas un fruit de l'imagination vive et absurde de la plupart des philosophes orientaux? Mais je suppose, malgré toutes les vraisemblances, que Dieu conserve après la mort de l'homme ce qu'on appelle son âme, et qu'il abandonne l'âme de la brute au train de la destruction ordinaire de toutes choses. Je demande ce que l'homme y gagnera. Je demande ce que l'esprit de Jacques a de commun avec Jacques quand il est mort. Ce qui constitue la personne de Jacques, ce qui fait que Jacques est soi-même, et le même qu'il était hier à ses propres yeux. C'est qu'il se ressouvient des idées qu'il avait hier, et que dans son entendement, il unit son existence d'hier à celle d'aujourd'hui. Car s'il avait entièrement perdu la mémoire, son existence passée lui serait aussi étrangère que celle d'un autre homme. Il ne serait pas plus le Jacques d'hier, la même personne qui ne serait Socrate ou César. Or, je suppose que Jacques, dans sa dernière maladie, a perdu absolument la mémoire, et meurt par conséquent sans être ce même Jacques qui a vécu. Dieu rendra-t-il à son âme cette mémoire qu'il a perdue? Créera-t-il de nouveau ces idées qui n'existent plus? En ce cas, ne sera-ce pas un homme tout nouveau, aussi différent du premier qu'un Indien l'est d'un Européen? Mais on peut dire aussi que Jacques, ayant entièrement perdu la mémoire avant de mourir, son âme pourra la recouvrer, de même qu'on la recouvre après l'évanouissement ou après un transport au cerveau. Car un homme qui a entièrement perdu la mémoire dans une grande maladie ne cesse pas d'être le même homme lorsqu'il a recouvré la mémoire. Donc l'âme de Jacques, s'il en a une, et qu'elle soit immortelle par la volonté du Créateur, comme on le suppose, pourra recouvrer la mémoire après sa mort, tout comme elle la recouvre après l'évanouissement pendant la vie. Donc Jacques sera le même homme. Ces difficultés valent bien la peine d'être proposées, et celui qui trouvera une manière sûre de résoudre l'équation de cet inconnu sera, je pense, un habile homme. Je n'avance pas davantage dans ces ténèbres. Je m'arrête où la lumière de mon flambeau me manque. C'est assez pour moi que je vois jusqu'où je peux aller. Je n'assure point que j'ai des démonstrations contre la spiritualité et l'immortalité de l'âme. Mais toutes les vraisemblances sont contre elles. Il est également injuste et déraisonnable de vouloir une démonstration dans une recherche qui n'est susceptible que de conjectures. Seulement, il faut prévenir l'esprit de ceux qui croiraient la mortalité de l'âme contraire au bien de la société, et les faire souvenir que les anciens juifs, dont ils admirent les lois, croyaient l'âme matérielle et mortelle, sans compter de grandes sectes de philosophes qui valaient bien les juifs et qui étaient de fort honnêtes gens.